La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Oh, merci Seigneur pour ta grâce divine. Dis avec moi l'audace. L'audace divine. Dans le livre de 2 Timothée, lorsque Paul dit ceci à Timothée, il dit « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. » Il dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. » Il dit « Mais il nous a donné un esprit de force. » La notion de force qu'il utilise là est très rattachée à la notion d'audace. On aurait pu traduire ça par audace. Dieu nous a donné un esprit d'audace, un esprit de force. Alléluia. L'audace est de la force. L'audace selon Dieu. C'est cette petite clé-là qui est tellement importante dans le miracle, dans le succès. Oser faire quelque chose. Vous savez, quand Pierre souhaite marcher sur l'eau, Jésus ne vient pas le soulever. Il lui dit, viens. Il faut de l'audace pour enlever le pied de la barque, le mettre sur l'eau et commencer à marcher pour voir se réaliser le miracle de Dieu. Alléluia. L'audace, là, c'est essayer. Être audacieuse, avoir l'audace, c'est essayer, c'est prendre des risques. C'est quitter aussi donc une zone de confort, c'est-à-dire une chose que tu maîtrises naturellement. Une zone de confort, c'est une zone où plus ou moins tu connais tes repères. C'est-à-dire, même si la zone ne te plaît pas, quand on dit zone de confort, c'est pas forcément que la zone nous est agréable, non. Mais on connaît nos repères, on sait se retrouver dans cette situation. L'audace, c'est cette aptitude-là, cette capacité d'une personne à quitter les zones de confort, là où il se retrouve, pour essayer quelque chose d'autre. Et le fait de quitter une zone de confort, une zone où je maîtrise tout, pour faire un pas de plus, c'est un risque. Car il y a risque d'échec. Ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas être apprécié. Donc, ce côté risque, ce côté se jeter à l'eau, est pourtant nécessaire, important, pour voir l'action de Dieu dans votre vie, pour voir des miracles, pour voir des prodiges, pour réussir dans la vie, dans les entreprises, dans vos projets. Il faut qu'à un moment donné, vous ayez la force de faire un pas dans le vide. Alléluia. Il y a un pas que vous allez faire dans le vide. Mais en fait, il n'est pas vraiment dans le vide. Il y a quelque chose que vous voyez dans votre esprit qui vous aide à faire ce pas. Et pour le commun des hommes, pour les autres qui sont autour de vous, vous vous jetez dans le vide. Mais vous, en fait, il y a quelque chose que vous voyez à l'intérieur de vous-même. Par audace, ce dont on a lu l'histoire dimanche dernier, ils sont lancés dans le vide en levant le toit de Jésus, faisant descendre un malade pour que Jésus-Christ le guérisse. Ils ne savaient pas quelle allait être la réaction de Jésus. Jésus pouvait très mal prendre leur attitude. Mais ils ont quand même essayé, parce qu'ils estimaient qu'ils devaient recevoir la guérison. La femme qui est partie, qui a touché les vêtements de Jésus, elle a fait quelque chose de différent. L'audace, justement, vous amène à quelque chose de différent. Parce que ce qui n'est pas différent, ce qu'on voit tous les jours, c'est une zone de confort. C'est une zone de confort. L'audace, c'est de quitter cette zone de confort. Vous êtes appelé à être au sommet. C'est votre appel. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc Dieu doit vous surélever quelque part. C'est-à-dire, dans un domaine quelconque de votre vie, il doit vous surélever. Il doit vous distinguer. Or, il ne peut pas le faire si vous n'apprenez pas à faire le pas dans le vide. Vous ne verrez pas des miracles extraordinaires dans votre vie si vous n'apprenez pas à faire des pas dans le vide. Vous ne connaîtrez pas le succès et la réussite si vous n'apprenez pas à faire un pas dans le vide. Mais pas n'importe quel vide. Le vide selon Dieu, c'est cela l'audace divine. Alléluia. La zone de confort où on aime rester peut être mentale. Elle est très souvent dans l'esprit. C'est-à-dire, tout le monde fait ça. Tant que je fais ça, je suis dans le commun. Alors, donnons des exemples plus pratiques pour que nous puissions saisir. Par exemple, Dieu décide de te bénir dans le domaine de la restauration. Tu sais que tu as le talent naturel de la cuisine et tu décides donc de faire un restaurant. Et Dieu veut bénir, Dieu veut se saisir de ce restaurant pour te faire éclater, pour faire éclater ton talent et puis devenir une bénédiction pour l'humanité. Amen. Très souvent, les moyens financiers que Dieu va vous donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour nous permettre, comme c'est notre vision ici à Vase en Or, d'aider les pauvres, de reconstruire, de construire des quartiers, d'ouvrir des frais, de pouvoir aider les pauvres. Pour que Dieu puisse le faire, n'est-ce pas? L'argent ne va pas venir dans notre main par accident. C'est parce que nous allons nous positionner quelque part qui va naturellement attirer les moyens. Et avec ces moyens-là, nous allons pouvoir soutenir et accomplir parfaitement, complètement la vision que nous avons reçue. Mais comment pourrais-je les avoir? Comment espères-tu avoir plus que ce que tu as aujourd'hui si tu ne fais pas quelque chose que tu n'as jamais fait? Tu ne peux pas continuer à faire tout ce que tu as toujours fait tout le temps et espérer avoir un autre résultat que les résultats que tu as eu jusqu'à présent. Tu as fait beaucoup de choses qui t'ont donné certains résultats. Comment voulez-vous vous attendre là, hein, à des choses plus excellentes si vous pensez continuellement à faire la même chose? Il y a bien un acte, une action que vous devrez poser à un moment donné de votre vie qui va commencer à produire un résultat différent. C'est ça l'audace. Alléluia. Alléluia. Alors donc, Dieu décide de te bénir dans le domaine de la restauration, par exemple. Et puis, tu fais le restaurant. Dieu te dit, tu pries, tu dis, bon, moi, je suis fort en poisson braisé. Tout le monde fait poisson braisé. Tu fais ton poisson braisé avec ton aloco, ton riz. En tout cas, une cuisine standard en disant, moi, je ne peux pas mieux que les autres. Écoute-moi. Si tu fonctionnes comme ça, les seules personnes qui viendront dans ton restaurant sont tes copains, tes amis, et puis les voisins les plus proches qui n'ont pas envie d'aller manger ailleurs. Comment est-ce que Dieu peut-il t'amener au sommet dans le domaine de la restauration? Si tu n'y a pas quelque chose de nouveau que les autres restaurants d'Abidjan n'ont pas. Alléluia. Poisson braisé, c'est une zone de confort. Ça veut dire que tout le monde fait ça. Tu sais que si tu fais poisson braisé au Carrefour, là, au moins, tu vas avoir quelques clients. Ça va te permettre de payer ta maison. Si tu as bien fait la publicité un peu à tes copains, venez manger poisson braisé. Mais tout le monde dit, venez manger le poisson braisé dans tous les maquis et magasins. Tout ce que tu auras, donc, ce sont tes connaissances qui vont aller parler pour toi. Ta marge, ça sera de dire, moi, mes prix sont meilleurs. Ou bien peut-être ton piment est un peu tout petit. Bon, même si tu veux, même si ton piment est plus bon. Mais quand même, poisson braisé, on ne va pas quitter Yopougon pour venir manger ton poisson braisé. Oh, Dieu, dans le poisson braisé, dans ta restauration, Dieu t'appelle à régner. Car c'est ton don. Alléluia. Alléluia. Mais tant que tu vas rester dans la zone de confort, de faire le même poisson braisé que tout le monde, il y aura un problème. Alors, on va imaginer quelque chose. Supposons maintenant que, maintenant l'audace va consister à faire quoi? À te dire, venez à mon restaurant, manger poisson suspendu. Ça n'existe pas encore. Mais que les soeurs, ceux qui sont dans le restaurant, saisissent. Poisson suspendu. Non, non, là c'est pour éviter, parce qu'il y a poisson piqué. Hein? Maintenant on dit, poisson suspendu. C'est cuit dans les airs d'une manière. Bon, tu vois, ça c'est un risque. C'est un risque parce que les gens ne connaissent pas poisson suspendu. Donc, tu ne sais pas s'ils vont l'apprécier ou s'ils ne vont pas l'apprécier. Il y a un risque. On peut te chasser, on peut te dire, mais c'est quoi ça? Ça c'est quelle affaire ça encore? Poisson suspendu. Tant que tu ne vas pas essayer d'aller faire le poisson suspendu, attends, pourquoi toi, Abidjan, viendra à ton restaurant si tu fais ce que tout le monde fait? Tu dois décider pour accomplir la promesse de Dieu selon laquelle toi tu dois régner, tu dois prendre le risque d'essayer le poisson suspendu. Alléluia. Avec le risque de perdre aussi les clients. Parce que s'ils n'aiment pas poisson suspendu, il y a un risque. Mais si tu ne sais pas, tu n'auras pas le succès, la réussite. Tu vas rester dans la zone de confort sans audace et tu vas mourir avec ton don. Par contre, quand poisson suspendu va fonctionner, quand les gens chercheront poisson suspendu, tu sais, comme c'est nouveau, on en parlera. Tu connais pas ça suspendu? Où c'est? À la Riviera, hein, à Cocody, hein, dans tel, au campus, dans tel endroit. Même si tu es dans un endroit un peu compliqué, les gens vont se déplacer, venir manger. Poisson suspendu. Ton endroit va devenir le rendez-vous ivoirien de poissons suspendus. Et ceux qui n'aiment pas prendre de risques vont directement te copier. Eux, il ne faut pas avancer l'humanité. Ce sont des suiveurs. Ils ne prennent pas de risques. Mais ceux qui prennent des risques sont ceux qui font bouger les choses. Sont ceux qui innovent. C'est de là que vient le succès. C'est de là que vient la réussite. Pour réussir, il faut essayer quelque chose que les autres n'ont pas essayé. Et essayer quelque chose qu'on n'a jamais essayé, c'est de l'audace. Parce que tu ne sais pas la réaction des personnes. Or, si vous n'êtes pas audacieux, selon Dieu, vous ne connaîtrez pas la réussite dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, professionnellement. Il faut que vous décidiez dans votre cœur maintenant de sortir des zones de confort, de faire un peu plus. Mais pas dans le désordre. Dieu organise cette audace. Si vous n'êtes pas enseigné là-dessus, vous risquez de vous déployer très mal. Sauter dans un vrai vide. Là, tu sautes dans un précipice, mon frère. Amen. Il faut de l'audace. Il faut oser. Il faut oser. Il faut faire quelque chose de différent. Amen. Amen. Il y a une soeur de l'église, je ne sais pas si elle est là au second culte. Elle a fait poulet fondant. Ah, tout le monde connaît ça. Donc, le poulet fondant. Mais elle me dit la dernière fois que, à cause du poulet fondant, des personnes sont venues. On a payé son billet d'avion avec quelques-uns des cuisiniers pour aller en Europe faire la cuisine parce que quelqu'un était venu à Abidjan. Il a mangé, il est arrivé dans son restaurant, il a mangé le poulet fondant. Quand cela a fondu sur sa langue, il dit, voilà, il lui faut le poulet fondant. Vous savez, quand la Bible dit qu'il y aura transfert des richesses, vous pensez que ça va venir comment? Les gens vont regarder ton visage un matin. Et puis on vient, on dit, je ne sais pas, hier nuit je dormais. Tiens, 4 milliards, soutiens l'œuvre de Dieu. Ça n'arrivera pas. Ce rêve-là, c'est un cauchemar. Arrête ça. Ça ne marche pas. Non. Mais elle, ce monsieur doit être multimillionnaire. Parce qu'il a tout simplement, en France, envie de manger du poulet fondant qu'il a goûté à Abidjan. Il se permet de payer un billet d'avion, sûrement même en classe affaires, avec des cuisiniers, avec la dame vient. Elle est dans sa maison. Elle fait la cuisine. Il met tout à sa disposition. Elle a dû lui faire payer les jours où elle n'est pas elle-même à son restaurant ici à Abidjan. Et le monsieur, il est là-bas, il prend en charge, prépare ça. On ne peut pas préparer son billet d'avion. Pour certaines personnes, c'est rien. Elles utilisent cet argent à faire souvent n'importe quoi. Mais vous, vous êtes les fils de Dieu. Dieu va vous bénir pour que vous puissiez soutenir le royaume de Dieu. Mais comment peut-il le faire si vous n'essayez pas quelque chose de nouveau? Si vous faites ce que tout le monde fait. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que tu pries à l'église, vas dans un. Pourquoi Satan donnera un tel marché? Pour quelle raison? Pour deux personnes qui savent faire les mêmes choses, on va prendre celui qu'on connaît. On ne prendra pas toi. Pourquoi on va te prendre? Tu as dit, ah bien, si c'est combine. Tout est une affaire maintenant, comme on dit, c'est en siphon. C'est une affaire de famille. Oui. En deux personnes qui ont le même diplôme, qui ont les mêmes compétences, on va prendre son frère. Toi-même, tu réagirais pareillement. C'est très simple. Mais par contre, si tu fais quelque chose que son frère ne sait pas faire, il va dire, mon frère, je t'aime bien, mais j'ai besoin de ce don-là. C'est tout. J'aurais pu te prendre, mais toi, tu ne peux pas me donner un tel résultat. C'est lui qui a un tel résultat. Comment vous pouvez sentir que vous avez ces choses en vous? Parce que ça est là, il y existe quelque chose en vous que vous allez produire, que le monde et les autres ne peuvent pas imiter. Et ce n'est que votre audace qui va vous aider à manifester cela. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je vous ai dit qu'il y a donc l'audace et les personnes qui arrivent à créer, à innover, à oser, sont prédisposés dans leur tête par une manière de penser. La Bible dit ceci, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sont les sources de la vie. C'est-à-dire, contrôle tes pensées. Veille sur tes pensées, parce que c'est elles qui conduisent ta vie. On a lu, rappelez-vous, Jérémie chapitre 6, verset 33, qui dit, que le malheur aussi arrive à cause des pensées. Jérémie 6, 33. Amen. Mais pourquoi la plupart n'innovent pas? Pourquoi la plupart ne font pas des choses nouvelles? À cause de leur manière de penser, à cause de leur manière de voir le monde. C'est juste la pensée. Dieu dit, garde ton cœur, ça veut dire contrôle tes pensées. Aménage ta manière de penser. Lorsque Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu, il dit ceci, repentez-vous. Et le mot repentance, c'est le mot métanoïa dans le grec. Métanoïa, mais ça veut dire, change ta manière de penser pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et les 16 façons de penser sont les façons de penser qui amènent des personnes à oser. Vous les trouvez même chez des païens. Aujourd'hui, des hommes sont célèbres parce qu'ils ont osé créer l'avion. N'est-ce pas? Ils ont fait quelque chose. Personne, quand tu regardes l'atmosphère, un homme ne peut pas s'envoler. Mais quelqu'un a essayé de produire. Et parce qu'il a produit cela, le monde s'est tourné vers lui. Son nom est dans les livres d'histoire. Il est devenu une bénédiction pour l'humanité. Le problème, c'est que la plupart des personnes qui deviennent comme cela des bénédictions pour l'humanité ne sont pas souvent fils de Dieu. Et ce sont ces personnes-là qui impriment dans le monde le caractère négatif. Tandis que les fils qui étaient censés, avec l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, produire des choses nouvelles, qui allaient essayer et le monde allait les regarder, qui devraient communiquer ainsi les valeurs du monde. Parce que supposons que tu réussis quelque chose et que tu es au sommet, simplement même dans le domaine de la couture. Tu as osé une tenue, en tout cas qu'on n'a jamais vue, et qui te rendu célèbre. Tu vois, tu deviens quelqu'un de valeur. Les hommes te regardent. Alors, c'est très facile de dire, quand tu es là-bas à la couture, tu dis, mes valeurs de vie, mes principes de vie, la chasteté. Et quand tu parles aux jeunes filles, elles t'écoutent parce que tu deviens un modèle. C'est de ça que Dieu parle. Elles n'écouteront pas parce que c'est en ego. Les jeunes filles qui sont là-bas, quelque part, en ce moment, en train d'écouter leur musique américaine constamment, là. Pourquoi elles vont m'écouter, moi? Si ce n'est pas parce que peut-être leur parent est chrétien qui va les amener à l'église ici. Si leurs parents ne sont pas chrétiens, comment ils entendront la parole de Dieu? C'est toujours un modèle qui donne une valeur. Tu regardes un modèle et puis tu le copies. Les jeunes ici, ils s'habillent selon des modèles. On regarde, le gars est sorti. Maintenant, nous les chrétiens, on veut que les personnes imitent Dieu, mais on refuse d'être des modèles. On refuse d'être un modèle parce qu'on a peur, on refuse d'oser, de faire des choses différentes. Amen. Il faut avoir de l'audace si nous voulons que le règne de Dieu soit manifesté. Nous devons essayer des choses nouvelles. Nous devons laisser notre esprit de créativité être manifesté pleinement. Qu'est-ce que je dois faire? Premier point, je dois oser rêver. Celui qui a osé pour créer l'avion, qui s'est mis en marche, ça a été pour qu'il le fasse, il a fallu d'abord que dans ses pensées, il soit un peu rêveur. Alléluia. La Bible dit ceci en ce qui concerne Jésus-Christ. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Que Jésus-Christ, il a bravé les obstacles parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Un rêve est quelque chose de positif. Comme Jésus voyait ce qu'il allait avoir après, ça lui a donné le caractère, l'audace, la force d'affronter les oppositions de la vie. Je dis, si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez avoir d'audace. Il faut vous permettre de rêver autre chose, de voir un monde meilleur, de voir des situations s'améliorer, de voir qui engendre l'audace. Une personne qui ne rêve pas, qui ne voit pas, comment veux-tu qu'elle essaie de faire quelque chose de nouveau? Là, lui dit Jésus, voyant la joie qui lui était réservée. Donc, prédisposez-vous à cela. Deuxièmement, en ce qui concerne, on est toujours dans oser rêver, j'ai dit oser rêver selon Dieu. Il ne faut pas avoir n'importe quel rêve. Parce qu'il y a des rêves qui ne sont pas des rêves. Ce sont des cauchemars, des choses horribles. Le rêve de votre vie, la vision que tu donnes à votre vie, le but de votre vie n'est pas égoïste. Donc, tout rêve égoïste est certainement pas de Dieu. Le but du manguier, c'est de donner des mangues. Mais les mangues ne servent pas au manguier même. Les mangues sont consommées par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes. Mais dans le manguier, il y a la sève, il y a les éléments qui vont entrer dans la mangue. Vous allez certes bénéficier des grâces de Dieu vous-même dans votre vie, mais votre destinée est toujours pour d'autres personnes. Tout ce qui est rêve, il va avoir une grande maison. Simplement rêve. Je vais me marier. Je vais me marier, ce n'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Le mariage est un moyen d'atteindre quelque chose, pas un objectif. On dit, je vais lui susciter une aide. Donc, Ève est venue pour aider Adam à atteindre quelque chose. Donc, si tu ne sais pas où tu vas, pourquoi tu veux te marier? Parce qu'on va t'aider à faire quoi? Le mariage vient pour aider, pour t'amener quelque part. Donc, il faut quelque part dans ton esprit que tu te sentes aller quelque part, c'est alors que tu reconnais l'homme qui t'est destiné ou la femme qui t'est destinée. Parce que tu vois que la personne va dans la même direction que toi. Quelqu'un qui va dans une direction opposée à toi, comment vous pouvez aller ensemble? Pendant que tu vois comment tu vas gagner la terre à Jésus, lui voit comment il va polluer la terre. Avec des boîtes de nuit, des bars, voilà comment il pense. Les boissons, les gens vont venir s'enivrer, lui il rêve comme ça. On va construire un maquis ici, on va construire un bar ici, les enfants. Voilà son rêve. Toi, ton rêve, que l'un de Dieu soit glorifié. Vos roues ne sont pas les mêmes. Tu dois laisser Dieu ôter de tes pensées l'égoïsme, la méchanceté et dire, Seigneur, sérieusement, là, moi je vis pour aider qui? Pour faire du bien à qui? À quoi? À quel système? Sur la terre. Ta vision est forcément rattachée à un bienfait à apporter aux autres. Si tu vis pour toi-même, tu seras malheureux à la fin de tes jours. Si tu vis et que tu vois les personnes sourire, chanter, danser, parce que tu es passé par là, ça c'est très bien. Dieu est fier de toi. Amen, amen. Amen. Donc il faut rêver les rêves de Dieu. Pas des rêves égoïstes. Pas des rêves orgueilleux. Juste pour être acclamé par les hommes. Amen. Deuxièmement, quelle est la mentalité de ceux qui ont de l'audace? Ce sont des personnes qui aiment penser, rêver différemment. Ou bien je dis, deuxièmement, oser faire différemment. Dis avec moi, oser faire différemment. C'est-à-dire, les personnes qui osent, qui essaient des choses nouvelles, sont des personnes qui n'aiment pas, qui ne restent pas longtemps dans le conformisme. Et tout le monde est comme ça. Mais comme il y a maintenant sur la terre beaucoup de peureux, les hommes proclament, annoncent les zones de confort. Faire les mêmes choses constamment, mon frère, on est tranquille là-dedans, et puis tout va bien, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit, soyez féconds, ayez des idées, multipliez vos idées. Amen. Amen. Il faut oser penser, il faut penser différemment. C'est-à-dire, quand les hommes font des choses qui reviennent de manière récurrente, celui qui a l'audace, en fait, il regarde, et puis il dit, mais si on passait à droite au lieu de passer, pourquoi on passe toujours à gauche? Et si on essayait à droite? Pourquoi on chante toujours comme ça? Et si on ajoutait telle note supplémentaire? Laissez cette dispensation, cette disposition dans votre cœur être manifestée. Pendant que vous faites quelque chose, pendant tout ce que vous faites, dès l'instant où ça devient récurrent, c'est la même chose, vous-même, laissez votre cerveau travailler et dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer? Alléluia. La Bible dit ceci, on va lire quelques passages, par exemple, au niveau même de la louange. Psaume chapitre 33, verset 3, il est dit ceci. Chantez à l'Éternel, chantez-lui un cantique nouveau. Pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie. En Marc chapitre 14, lorsqu'il est question de la femme pécheresse, comme on l'appelait, qui est venue, elle a adoré Jésus différemment. Les hommes, pour adorer, tous les jours, étaient là. Père, qui es-tu? Qui est semblable à toi? Elle est venue avec parfum. Elle a cassé, c'était son adoration. C'était différent. Elle est venue avec un parfum. Tout le monde a l'habitude d'adorer avec un mouton, un bœuf. Salomon est arrivé, il en a pris 1000. C'est différent. Ceux qui osent sont des gens qui pensent différemment. Pour combattre Goliath, tout le monde avait l'habitude de porter des armures. Quand David a décidé d'aller combattre Goliath, Saül lui propose, porte mon armure. Il dit non, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Différemment. Est-ce que ce que tu penses différemment va toujours fonctionner, ça va plaire à tout le monde? Pas forcément. Est-ce que oser garantit le succès? Non. On va apprendre que dans la vie de temps en temps, ça ne va pas marcher. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi des bons amen vitaminés. Amen. Dieu même dit, chantez-moi des cantiques nouveaux. C'est-à-dire les mêmes chants qu'on chante tout le temps là. Dieu n'aime pas. Une fois que tu as chanté, alléluia, 4 fois, 5 fois, il dit c'est bon maintenant. N'est-ce pas? Il n'y a pas un autre chant? Ah. Et il y a un président qui possède ça. Il dit, mon frère, depuis que nous sommes nés, nous sommes comme ça. Nous faisons ceci, nous faisons cela. C'est dans cette mentalité-là. L'Afrique est restée derrière. Ce n'était pas le plan de Dieu.
On dit, mon frère, depuis que nos pères sont nés, tout le monde marche comme ça. On ne sait pas pourquoi. Non. Le développement vient de ce qu'il y a des personnes qui pensent différemment. Qui se disent, mais si, pourquoi on va travailler comme ça? Vous savez, c'est comme en Afrique, on a des principes. Pour laver même les habits, là. Je me souviens à l'époque, hein, quelquefois, quand je vais laver les habits, quand je m'assois sur un tabouret, on dit, c'est paresseux, tu es paresseux. C'est vrai, non? Il faut être debout, c'est bien. Mais le truc, c'est que l'autre, il réfléchit, il dit, mais est-ce que tu sais que si je m'assois pour faire là, j'économise mes forces et je peux laver plus de vêtements et je peux faire encore autre chose. Mais lorsqu'on établit souvent des normes, qu'on n'essaye pas d'améliorer, on n'avance pas. Vous savez que c'est à cause de cette... C'est pas souvent des paresseux, ceux qui pensent différemment, qu'on a créé les machines à laver. Nous, on n'a jamais cherché à innover. Ça veut dire, depuis que le monde est monde, on lavait la mer. Quelqu'un n'a jamais pensé, mais et si on améliorait le lavage? Mais c'est quelqu'un qui a pensé à améliorer le lavage, qui a créé la machine à laver. Il a pris un risque parce qu'il pensait différemment. Mais toi, tu viens, tes pères et tes mères ont lavé comme ça. Vous savez, c'est comme ça. Ça, c'est la particularité des animaux. Les animaux, depuis que le monde est monde, ils ne font rien. Les singes grimpent de la même manière dans les arbres. Ils descendent. Est-ce que vous avez vu les chiens faire un syndicat pour réclamer que dorénavant, pour que les chiens mettent bas, ils allaient améliorer, créer un hôpital? Non. L'homme est né pour créer, pour innover. Les animaux, depuis que le monde est monde, les chiens, les singes se comportent de la même façon. Le cerveau humain est créé pour penser différemment. Pour penser autre chose. Si vous reniez cette capacité-là en l'homme, vous reniez Dieu. Pourquoi? Tu renies Dieu? Depuis que vous voyez les singes là, est-ce qu'ils ont réfléchi un jour à s'habiller? Nous voulons s'habiller. Jusqu'à la fin de s'habiller, à un moment donné, on trouve que telle que la chemise est là, ce n'est pas intéressant. Il faut créer telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est comme ça que le monde évolue. On pense, il faut penser différemment. Or, il y a un groupe de personnes, et il y en a plein dans l'église, qui refusent de penser différemment, de peur, de péché, et de faire quelque chose de bizarre. Pour que tu ailles et pour que tu fasses la volonté de Dieu, tu feras des choses bizarres. Je t'assure, personne ne va accepter. Mais décide-toi. Amen. Dis à un voisin, pense différemment. Pensez différemment. C'est très important. Dès qu'on voit les choses, on chante comme ceci. Et si on améliorait ceci? Regardez dans ce passage, même votre manière de jouer la guitare. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau dans la version d'Arbi et dit, et pincez habilement vos instruments. Même lorsqu'une chose devient monotone, récurrente, c'est comme ça que tout le monde a fait. Pensez différemment. Dis, et si on améliorait? Dis avec moi, et si on faisait différemment? Mais c'est ce qui fait vase d'honneur. Il y en a qui ne comprennent pas. C'est ça qui me dit, eux, ils veulent la religion. Il y a quelqu'un qui me dit, parce que vraiment, j'apprécie les messages. Mais ici, on ne sait jamais comment le culte va se passer. Tous les gens veulent les choses standards. Mais Dieu même là, il a créé les couleurs. Ça veut dire, oh, Dieu. Donc, la monotonie que tu recherches, c'est la religion, ce n'est pas Dieu. Donc, nous, on est là un matin, on dit, bon frère, on attribue maintenant. Et c'est notre manière de célébrer Dieu. Ça donne un engouement, ça donne un type de service. Et les gens sont retrouvés dans des groupes en train de décorer. On ne sait pas ce que Dieu va nous dire demain. Mais on ne reste pas limité. Parce qu'on a un grand Dieu, infiniment grand. Trop de personnes pensent que Dieu a fini d'agir dans les actes des apôtres. Et souvent, malheureusement, ça s'appelle église des actes des apôtres. Ça veut dire que tout ce que les apôtres font, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins. Restons là-dedans. Comment vous pensez comme ça? Dieu ne va pas contredire sa parole. Mais ses capacités d'action sont infinies. Infinies. On dit voilà. Alléluia. Alléluia. La façon dont eux se sont comportés à leur époque, la leçon qu'on doit tirer, c'est que ces personnes marchaient par le Saint-Esprit. Il faut marcher par le Saint-Esprit. La Bible dit du Saint-Esprit, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Ça veut dire, tu ne peux pas le cataloguer. Fais attention à le Saint-Esprit. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Tout ce qu'on te demande, suis-le. Amen, 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 amen. Soyez prédisposés à cela dans vos affaires, dans vos entreprises, dans vos projets. Pensez différemment. Tout le monde fait quelque chose. Dès que ça devient commun, pensez différemment. Même si tu innoves la première fois et puis après d'autres personnes te suivent, c'est très bien. Mais tu as la capacité de penser encore autre chose auquel ils n'ont pas pensé. Pense encore. Et je t'assure, dans le domaine pour lequel tu existes, tu as une capacité de créativité inouïe. Et qui fait que tu auras toujours de l'avance sur ceux qui veulent faire comme toi. Toujours. Parce qu'en fait, ton cerveau crée constamment. Pourquoi? Parce que c'est ton domaine. Si c'est dans la couture, ton cerveau crée les modèles seulement. Moi, c'est dans la parole. C'est pasteur, tu vois, non? Si tu me dis couture, là, je ne peux pas te dire autre chose. Je ne sais même pas innover dedans. Je ne peux pas penser différemment. Mais, dans l'église et dans la parole, c'est créé. Quel est ton domaine? Tu dois pouvoir créer naturellement dans ce domaine. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Troisième manière de penser. Troisième façon de penser. Apprenez à voir des opportunités et non des problèmes. Nombre, le chapitre 13, à compter de verset 26. Un autre passage encore, 1 Samuel 17, verset 26, il est dit là, « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» La première fois qu'Israël est arrivé devant la terre promise, devant Canaan, lorsqu'ils arrivent, Dieu va demander qu'on choisisse 12 personnes des anciens du peuple, des hommes qui étaient censés, toutes les 12 personnes étaient des hommes dont le témoignage était des hommes remplis du Saint-Esprit. Parce que c'était parmi les 12 anciens. Or, les anciens d'Israël, quand vous regardez comment Moïse les a choisis, c'était des hommes sages, des hommes respectés, respectables. Les 12 vont dans la terre promise. Ils voient la terre promise, ils regardent Canaan ensemble. Là-bas, ils voient des fruits, de beaux fruits, et en même temps, il y a aussi des géants. Ils reviennent voir le peuple. Les 12 doivent faire un rapport. 10 se focalisent sur les méchants. Il dit là-bas, c'est vrai que il y a des beaux fruits, hein, mais il y a des géants, des enfants d'Anak. Quand vous continuez le passage, il dit, devant eux, on est des sauterelles. Mais Caleb a vu différemment. Ils ont observé le même territoire, mais ils ont eu des rapports différents. Mes amis, ça fait la différence entre ceux qui osent et ceux qui n'osent pas. Entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. La vie est là devant nous. Comment vous la voyez? Les 10 qui ont vu des problèmes et les géants, Dieu leur a dit, vous n'entrerez pas à Canaan. Caleb et Josué, ils n'ont pas vu les géants. Ils ont vu des géants, mais ils ont plus regardé les fruits. Ouh, de jolis fruits. Waouh, on va les prendre. Les autres, des jolis fruits. Des géants. Mais il est costaud. Regarde comme il est baraqué. Caleb et Josué, les fruits. Waouh, voilà ce que Dieu nous promet. C'est merveilleux. Lorsqu'ils sont repartis, les 10, on dit, vous n'entrez pas. Ceux qui se sont focalisés sur les opportunités et les avantages sont ceux qui sont entrés sur le terrain. Ceux qui ont pris le temps d'analyser les obstacles, on les a chassés. On dit, vous n'entrez pas. Et ça fait une grande différence. Il y a des hommes qui sont spécialistes et pour faire de ce cas-là, à regarder le problème. Mes amis, les géants existent toujours. Le monde aura toujours des problèmes. Ça ne va pas finir un moment. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on soit au ciel. Si tu passes ton temps à regarder les difficultés de la terre, la Bible dit que tu es un incrédule. La dernière fois, je vous donnais l'exemple des Chinois. Aujourd'hui, l'Occident est surpris. Mais tout est une affaire de mots, est une affaire de prononciation. Ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes problèmes. Pendant que vous fuyez les pays, eux, ils arrivent. Parce que ce qu'ils entendent à la radio, à la télévision, le monsieur ne comprend pas français. Mais quand il entend opportunité, le Chinois rentre en Côte d'Ivoire, il ne sait même pas parler votre langue. Mais il y a un mot qui sonne, opportunité. Donc ses yeux sont ouverts. Où sont les opportunités dont on a parlé dans mon pays? Pendant que toi, en Côte d'Ivoire ici, la crise. On ne peut pas réussir. Crise. Crise. Tu veux entreprendre, mon frère? Et on attend que la crise finisse. Et les affaires? En ce moment, ça ne peut pas marcher. Il faut que ça ne marche pas. Tu vas aller, tu vas prendre tes produits, tu vas à Dubaï, tu reviens. Personne ne prend la crise. Et quand la crise va finir, On va. Quelqu'un attend opportunité. Opportunité. Et il vient. Et il s'enrichit. La Chine, s'est enrichi énormément en Afrique pendant que l'Occident est en train de partir. Tout est une manière de voir. Il y a le même problème. Ce n'est pas des problèmes différents. Ils ont vu les mêmes choses sur le territoire. Ce n'est pas deux territoires différents, mais ils ont interprété différemment. Caleb a vu les opportunités, eux, ils ont vu les géants. Dieu n'aime pas ceux qui voient les géants. Les géants, on n'a pas dit qu'ils n'existent pas. On m'a dit, si tu les vois, ça ne plaît pas à Dieu. Sinon, ils existent. Mais tu dois les regarder petits et puis dire, opportunité. T'avais mon opportunité. Ça veut dire quoi? Si vous voulez avoir de l'audace, changez votre langage. Le deuxième point, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Troisième point, pardon. Changez votre langage. Bannissez de votre bouche, de vos lèvres, le mot problème. Il n'existe pas de problème sur la terre. Tout ce qui s'appelle problème n'est en fait qu'une opportunité. Tout est une manière de voir. Pendant que ton mari est en train d'être abandonné, d'autres appellent ça problème. Si tu connais le langage de Dieu, toi tu vas appeler ça opportunité. C'est difficile. Il me laisse. Mais si tu commences à raisonner, il y a sûrement quelque chose de bon dans cette affaire. On n'a pas dit que le géant il est bon. On n'a pas dit que le géant ne transporte pas un problème. Mais à côté de lui, il y avait les raisins. Ce sont les raisins qu'il faut remarquer, pas le géant. Alléluia. On ne remarque pas les géants, on remarque les raisins. Donc Dieu dit, regarde les raisins. Toi, tu veux regarder, tu vois raisin, voilà géant, raisin, géant. Tu dis géant, si je veux prendre raisin, géant va me tuer. Dieu dit, laisse, regarde raisin. Le fruit. Alors pendant que tu souffres dans ta famille, pendant que... Tu dis, waouh, sûrement que c'est une opportunité. Dieu va m'amener quelque chose de nouveau. Quelque chose de bon va sortir de cette situation. Ça, c'est comme ça pensent les vainqueurs. C'est comme ça pensent les hommes qui ont de l'audace. Ils transforment la vision de la réalité en une opportunité. Moi, je ne prononce plus le mot, c'est pour vous enseigner, j'ai dit ça. Hein. Mais le mot problème, ce n'est plus dans ma bouche. Il y a longtemps même. J'utilise, si c'est vraiment des problèmes, j'utilise des défis ou le mot challenge. Alléluia. Pendant que rien ne va au boulot, on veut te renvoyer des dossiers contre toi. Rien ne va. Tu rentres à la maison, tu regardes ta femme. Tu dis, il y a une opportunité au travail. Il y a une opportunité. Quelqu'un qu'on va renvoyer, tu commences à déclarer. Mes amis, vos pensées seront sculptées par vos paroles. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, pendant que tes yeux ont envie de pleurer, toi commences à déclarer, ouh, alléluia, il y a quelque chose qui arrive de bon, il y a quelque chose qui arrive de bon. Car les Écritures déclarent ceci, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors qu'est-ce que tu regardes? Si c'est un problème, ça concourt à ton bien. Si c'est un bonheur, c'est à mieux encore. Donc tu gagnes, à coup sûr, tu gagnes. Donc regarde où tu gagnes. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé en chantant l'hymne des vainqueurs. Tu te lèves le matin, mon frère, tu mets le CD dans ta maison. Pendant que tu te brosses les dents, aujourd'hui, c'est une opportunité. Il n'y a rien à faire. Je sais que par toi, je triomphe. Rien ne m'arrêtera. Déclare-le tous les jours. Ça va changer ton être intérieur. Ça va changer ta manière de voir. Et je t'assure, les problèmes vont commencer à disparaître devant toi. Parce que quand tu commences à réfléchir aux opportunités, rêve. Alors, subitement, ton cerveau, Dieu commence à te montrer le chemin. Parce que tout problème qui existe dans la vie a un chemin pour le résoudre. Mais tant que tu vois le problème, tu ne verras pas le chemin que Dieu a tracé qui règle le problème. Il y a à tout problème. Aujourd'hui, tu es quelqu'un dans cette salle. Tu es endetté, je ne sais pas de combien de millions. Il y a une solution. Mais tant que tu vas commencer à considérer la dette, hein? Tu as couché comment, tu déprimes. Dans ta chambre, tu vois. Je dois. 10 millions. Bon, tu essaies de passer un peu ton temps. Je regarde la télévision. Ça va me faire oublier. Pendant que tu regardes, tu veux sourire avec la télé. Satan ramène l'idée dans ton cœur. Ça sonne comme ça. 10 millions. Tu dois. Non. Le problème est là. On n'a pas dit de fuir le géant. On dit de le regarder et de dire opportunité. De regarder le géant, de regarder les 40 millions que tu dois et de dire opportunité. Pendant que tu vas commencer à déclarer opportunité, c'est un défi, c'est un challenge, c'est une opportunité, alors tu vas commencer à voir en toi la solution. J'étais hyper endetté. Je vous ai rendu ce témoignage. Hyper endetté. Je n'aime plus même. Mais Dieu a tout remboursé. Je pense que c'est arrivé, on pouvait évaluer entre 20-30 millions. Que j'ai de l'argent, mais je n'ai même pas vu. On m'a prêté l'argent pour mener un projet. Tombé jusqu'à des crédits là-dedans. 10 millions de prêts. Je devais rendre 12 millions. Le projet était trop certain. Trop certain, frère. Et puis je suis pasteur quand même. Ce n'est pas pour tricher. 10 millions. Payer les ordinateurs, payer le système, tout faire, installer le projet. On avait déjà le marché. Un petit papier à signer. Les gens disent, on va signer. On va signer. On va signer. Enfin, il faut payer les employés. On va signer. Il faut payer les charges. Depuis là. Or, il fallait qu'ils nous autorisent pour qu'on puisse sortir le produit. Ils nous avaient promis... On est resté comme ça jusqu'à toute la caisse est vidée. Les commerciaux ne peuvent pas travailler, personne ne peut travailler. On a dû fermer, vendre. Et maintenant, les créanciers. Les huissiers venaient taper à ma porte. Oui, monsieur, vous devez. Dans la même période, des amis me donnent deux voitures à vendre. Je vois un frère de l'église, entre guillemets, ce n'est pas un frère. Va vendre les voitures. Donc les voitures devaient être vendues et je devais leur amener l'argent et ils disent qu'ils me donnaient la dîme. Le frère prend les voitures, il vend deux voitures, il fuit. Donc je dois. Quoi encore? Vous voulez problème encore? J'en ai beaucoup. Tu connais, mes serviettes, j'ai fait venir mes pauvres serviettes. Ça arrive au port. Plus de 10 millions, près de 20 millions. Les voleurs vont la nuit. Ils ne volent rien d'autre. Sauf mes serviettes dans l'entrepôt du port. Les serviettes du pasteur. Même si tu es oint. Alors, en ce moment-là, je regarde mes entrées, je regarde trucs et j'ai une alliance. Je ne demande rien à personne. Je m'en sors comment? J'ai une alliance avec Dieu. Je ne demande jamais l'argent à personne. Jamais. Je prie. Tu t'en sors comment? Mes amis, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tout est réglé. La première des choses, je me suis calmé à un moment donné. J'ai dit à ma femme, on ne pleure pas. Si on va mourir, on va mourir. Si on va aller en prison, on va aller en prison. Mais gardons le calme. Cette situation va contribuer à la gloire de Dieu. Juste le fait de commencer à déclarer, à dire que j'ai quelque chose à apprendre, l'atmosphère spirituelle va changer. Et c'est en ce moment-là que je vais voir dans mon cœur un chemin qui va régler le problème. Les personnes vont commencer à être calmes. On me dit, non, prends ton temps. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Ça m'a pris près de 4 ans pour rendre à tout le monde. Mais Dieu a pourvu. Mes amis, si vous ne s'apprenez pas à regarder le monde, si vous n'apprenez pas à voir les opportunités, les problèmes vont vous arrêter. Je vous ai dit, Jésus a dit à Pierre, rejoins-moi sur l'eau. Quand Pierre a commencé à regarder le vent, il s'est enfoncé. Jésus a dit, rejoins-moi, toi aussi. Jésus t'a dit, je ferai ceci avec toi. Viens me rejoindre sur les eaux. Et tu t'es levé avec audace. Tu as commencé à marcher sur la parole de Christ. Mais la Bible dit, à un moment donné, Pierre a vu le vent qui soufflait fort. La phrase, le verset dit, voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Directement, il s'est mis à s'enfoncer. Pourquoi? Juste changer de vision. Juste la vision. Pierre n'a jamais remis en cause la capacité de Jésus à le faire marcher sur les eaux. Tu n'as jamais remis en cause la capacité de Dieu à te faire des prodiges. Je parle de ce que tu regardes. Tout le monde croit que Dieu peut tout faire. Tu crois même que Dieu peut te donner demain, même s'il le veut, 1 milliard. Il peut tout. Il n'a aucune limite. Mais tu regardes quoi? Est-ce que regarder, c'est pas un péché de regarder le vent? Mais ça détruit en toi la capacité de l'audace. Ça détruit en toi la force. Regarder le problème te détruit. Le problème existe, mais ne le regarde pas. Il va crier, regarde-moi. Mais continue à regarder ton rêve. Et puis avance vers ton rêve. Jésus a dit, rejoins-moi. Pierre a commencé à marcher. Lorsqu'il a commencé à regarder la force du vent, directement il a eu peur et il s'est mis à s'enfoncer. Pour créer en vous l'audace, cultivez en vous la capacité à regarder les opportunités. Faites ce travail-là constamment. Tous les matins, réveillez-vous en déclarant ces choses dans votre vie. Dites toujours que la journée est belle. Dites de bonnes choses dans votre tête. Même si ce n'est pas la réalité, continuez à confesser les bonnes choses. Et vous allez voir le chemin se tracer dans votre cœur. Quelqu'un dit amen avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour terminer avec ce chapitre-là, c'est comme ça que David a vu Goliath. Il dit, on donne quoi à celui qui le tue? Regardez quelqu'un. On te dit, Goliath, lui, il regarde déjà, qu'est-ce qu'on gagne? C'est ce qui a fait qu'il a osé. Qu'est-ce qu'on gagne? Je vais gagner. Tu es vainqueur. Mais la différence entre toi dans ta faiblesse et les autres, c'est la façon dont tu vois le monde. Tu penses tout au problème. Juste tes pensées, pas les actions. Si tu focalises ton attention sur la réussite, sur le succès, sur tout ce qui va, ça va créer en toi la foi, ça va créer en toi le chemin pour résoudre le problème. Amen. Amen. Quatrièmement, quatrième point, quatrième manière de penser qui vous donne, qui crée en vous l'audace, la capacité d'avoir de l'audace. Dis avec moi, je dois revisiter mes croyances et les soumettre à Christ. Ah, j'aime ce chapitre-là aussi. Amen. Les croyances, ce sont des gens de dogmes, d'idées préconçues par l'expérience des choses auxquelles tu crois et qui sont établies dans la pensée. Ces genres de croyances-là sont un frein, un obstacle à la créativité, à l'innovation, à la foi, à l'audace. Il y a des croyances qui ne sont pas de Dieu, qui sont en nous. Parce que tout le monde l'a dit, parce que tout le monde le croit. On se réfugie dans ces croyances-là parce que ce sont des zones de confort. Mais il faut en sortir. Amen, amen. Jean chapitre 7, verset 52. Il est dit, il lui répondit, es-tu Galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Ce simple verset que je laisse là, en fait, est une question que des pharisiens, des membres du peuple ont posé à Nicodème. Parce que Nicodème commençait à croire en Jésus et on lui dit, analyse, est-ce que, observe, est-ce qu'il y a quelqu'un et un prophète qui est sorti une fois de la Galilée? Ce n'est pas possible. On voulait l'empêcher de croire. Et vous savez, ça paraît simple. Mais il y a des hommes, il y a des pensées qu'on a véhiculées dans nos têtes qui sont des croyances et qui nous limitent. Les croyances empêchent d'agir. Il y a dans nos têtes, dans nos pensées, des croyances qui ne sont pas établies par Dieu, qui sont établies par les hommes et qui nous limitent, qui nous bloquent en un endroit. Il y a des croyances qui t'empêchent d'agir. Alléluia. Et voilà le passage dont je parlais tantôt, Nombre chapitre 13, verset 33. Il est dit, et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Dites avec moi. Il dit, la dernière partie, on peut lire ensemble, 1, 2 et 3. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça veut dire en fait, les géants étaient tellement géants que les géants les voyaient comme des sauterelles. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce qui embête Dieu dans cette affaire, c'est eux-mêmes. Il dit, nous étions à nos yeux et aux leurs. Donc, ce qui embête Dieu, c'est qu'eux-mêmes, ils se voyaient sauterelles. Hey, tu es sauterelle. Ils se voyaient des sauterelles. L'angle de vue, la manière dont, ce en quoi tu crois, va déterminer les choses que tu auras. Alléluia. Alléluia. On va viser cette croyance. Parce que tes parents ne t'ont pas mis à l'école, tu ne peux pas être président de la République. Voilà une croyance par exemple. Beaucoup de gens croient que parce qu'ils n'ont pas fait des études, ils ne peuvent pas réussir. Beaucoup de gens croient aussi que parce que quelqu'un n'est pas allé à l'école, dans la vie, il ne pourra pas réussir. Ce sont des croyances. Il y a des croyances comme ça dans la tête des personnes, des choses qui vous limitent, qui te disent en toi, non, ce n'est pas possible d'eux. Ce n'est pas possible d'eux. As-tu vu en Côte d'Ivoire quelqu'un qui est sorti ici, qui est allé de l'avant? Vous savez pourquoi la majorité d'entre nous ne vont pas en Europe pour ouvrir des entreprises? Vous savez pourquoi? Parce que la plupart ne croient pas que c'est possible de réussir. La plupart des Ivoiriens qui vont là-bas, leur esprit, là, ça allait balayer. Frère, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils croient que chez les Blancs, tu ne peux pas réussir. Tu comprends? Et même la réussite qu'ils nomment là, est une prospérité à force de balayage dans les entreprises, en fait, de faire les petits boulots. C'est ce que tu crois, mais c'est faux. Qui t'a dit que c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai qu'une personne qui n'a pas un diplôme ne peut pas réussir? Pourquoi? Pourquoi? On nous a dit, depuis qu'on est petit, on dit non, un noir ne peut pas être président des États-Unis, ce n'est pas possible. Premièrement, les noirs sont minoritaires. C'est-à-dire, on te demande comment ça va se faire? Ça, c'est l'expérience. Premièrement, les noirs sont minoritaires. Deuxièmement, les hommes sont racistes. Mes amis, il y a la réalité et puis il y a la foi, il y a la croyance. Barack Obama a cru que c'était possible. Et quand tu commences à croire, tu commences à oser, tu commences à agir différemment. La preuve, c'est que les hommes ne regardent pas la couleur de peau. La preuve, c'est que ceux qui l'ont voté, c'est des Blancs. Alléluia! Tu crois en quoi? Qu'est-ce qui te limite dans ta tête? Comment je peux résoudre le problème? Dites-vous. Qu'est-ce que tu crois qui est impossible? Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a seulement le CP1 peut être président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous croyez? Personne ne veut croire. C'est maintenant que vous réalisez. En fait, vous réalisez que vous avez un frère. En fait, bon, donc ceux qui ont les diplômes, ce sont les géants par rapport à celui qui n'a pas de diplôme. Eux, ils regardent celui qui n'a pas le diplôme comme une sauterelle. C'est comme ça que ça se passe. Ils disent, ah, mon petit, tu n'as même pas arrivé à eu un bac, président. Donc, ils te regardent comme une sauterelle. Toi, maintenant, à tes yeux, qui es-tu? Toi aussi, tu peux te voir. Eh, c'est vrai, hein? Je n'ai même pas BPC. Je ne peux pas être président. Donc, lui, il te voit incapable. Toi aussi. Parce que tout le monde te voit incapable. Tu te vois aussi incapable. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas réussir pour le moment. Si tu ne changes pas tes croyances. Si tu crois que c'est possible, alors tu vas commencer à oser apprendre. Tu vas commencer à oser te former. Tu vas commencer à bouger. Mais dès l'instant où tu crois dans ton cœur, parce que le monde l'a dit, que ceux qui sont nés dans un tel quartier ne peuvent pas réussir, si tu as accepté cette pensée, elle te bloque toute ta vie. Les seuls pas que tu feras, tes seules tentatives seront des petites choses. Hein? Tout ce que tu as pensé, on dit, mon frère, comment tu as réussi? Toute ta pensée sera, à la limite, cabine cellulaire. Pourquoi cabine cellulaire? Parce qu'il ne faut pas un diplôme pour faire cabine cellulaire. Tu prends seulement, oui. Voilà, toute ta foi là, et tu vas commencer à gêner et prier. Père, bénis ma cabine, bénis ma cabine, bénis ma cabine. Tu n'es pas audacieux. Un coup, tous les jeunes viennent ouvrir cabine à côté de toi. Dieu ne va pas te bénir si tu n'élargis pas ta croyance. Si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, si tu ne te dis pas que c'est possible pour toi. Pourquoi tout le monde est en train de faire les mêmes choses? Parce que les hommes croient qu'en dehors de ce qu'on a déjà fait, il n'y a pas de possibilité de réussir. C'est ce qu'ils croient dans leur tête. Si tu crois que c'est possible, dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Est-ce que vous me suivez bien? Moi, je crois que demain, quand cette parole-là, parce que je sais que cette parole va nous transformer. En fait, quand tu commences à croire, tu n'as aucun complexe. Comment je sais que je ne crois pas en quelque chose? C'est quand je commence à faire cette chose, et puis je suis complexé. Le noir qui s'en va en Europe, il est complexé. C'est-à-dire, tout le monde me regarde mal ici. On se dit que je suis un noir. Eux, peut-être qu'ils te voient noir et que tu ne peux pas aller loin. Si toi-même, tu fais l'erreur de voir la même chose dans ton esprit, tu t'arrêtes là. Les géants sont vraiment géants. Les Israéliens étaient vraiment petits. Mais dans leur tête, ils se voyaient comment? Comment? Quand tu marches dans la rue, tu te vois comment? Tu te vois comment? Alléluia! Amen. Alléluia. Dieu veut te faire entrer dans ta terre promise. Et tu es arrivé dans cette terre promise. Tu as regardé, tu as vu des géants. Comment tu te vois? Dans le domaine de la restauration. Quand tu regardes, tu vois les gros restaurants. Comment toi tu te vois? Est-ce que tu vois qu'un jour tu peux ouvrir un restaurant qui va beaucoup plus marcher que ces grands restaurants? Est-ce que tu peux voir ça? Mais pourtant tu ne peux pas arriver parce que eux, non, ce n'est pas possible. Eux, ils ont eu l'aide de la présidence. Ils ont eu l'aide de quelque chose. Arrête de croire ça. Nous, nous partons, et c'est une mentalité qu'il faut briser. On part évangéliser dans les régions nord de la Côte d'Ivoire. La fois dernière, on était à Odiené, bon, il y a plusieurs années. Là-bas, les pasteurs sont venus faire des enquêtes pour essayer de voir où est-ce qu'on tirait nos sous. Parce que pour eux, il est impossible qu'un Ivoirien, un gars de la Côte d'Ivoire, puisse avoir autant de moyens et en plus, avec l'argent, il vient faire des dons gratuits. Les gens ne veulent pas croire cela. Même à Abidjan, il y a des personnes qui ne veulent pas croire. Ils se disent que non, parce que je connais les chefs de l'État, parce que je connais ce qu'on me finance. Parce qu'ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas croire qu'on peut réussir sans être sponsorisé. Ça veut dire quoi? Si tu crois qu'on ne peut pas réussir sans être sponsorisé, là, tant qu'on ne te sponsorisera pas, tu seras bloqué dans ta vie. Or, on ne va pas te sponsoriser maintenant. Donc, arrête ça. Qui t'a dit? Attends. Qui t'a dit que sans sponsor, on ne réussit pas? Qui t'a dit? C'est toi-même, tu t'es arrivé un matin, tu t'es assis dans ta chambre, tout le monde raconte que ici à Abidjan, mon frère, si on ne t'a pas pistonné, tu as pris pistonnage là, tu as mis ça dans ta tête. Hein? Sans piston, pas de réussite. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Tant que tu vas croire cela, tu ne vas rien oser. On te demande de commencer, on dit non. C'est lamentable, je dis dans l'église. Tu es bloqué dans ta vie, tu ne sais rien parce que tu as des croyances erronées. Fausses. Tu as une fausse croyance en ce qui concerne la réussite et le succès. C'est un mensonge qui est dans ta tête. Parce que tu as vu 10 personnes. On te dit non. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sort de la Galilée? Et puis vous allez croire ça. Jésus est venu de Galilée. Et c'est Jésus qui a apporté la guérison. Et en demandant à Nicodème, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sort de Galilée? Jésus vient de là-bas. Arrêtez de vous limiter par vos croyances. Si on n'est pas puissant, on ne va pas truc. On arrive là-bas, les populations, comme ils ne voient pas d'occidentaux avec nous, donc les pasteurs ont commencé à faire des enquêtes pour voir où nous tirons nos fonds. Là, nous sommes partis à la campagne de Touba. La campagne de Touba nous revient pas loin de 12 millions de francs CFA. Parce qu'on a amélioré les choses, on a décidé de passer et de faire beaucoup d'aspects sociaux, d'aider la population. On souhaite repeindre l'école primaire, aider la préfecture, aider la mairie, en plus de la campagne. Parce que ce que nous voulons, c'est que nos campagnes soient, c'est pas simplement parler, on parle de Dieu, mais ce soit en même temps pour une région, un boom, un développement. C'est-à-dire, quand on dit par exemple le chef de l'État va dans un endroit là, eux tous ils attendent à ce que quelque chose de bien arrive à leur région. Voilà, aujourd'hui nous on commence petit, mais c'est mon rêve, à moyen terme. Ça veut dire quand message de vie va en heure, on arrive quelque part, ça fait du bien à la ville quoi. Ah, dans tous les domaines, social, économique, dans tous les domaines. Les gens voient les choses bouger. Parce qu'on vient avec le royaume de Dieu. C'est ma prière. Mais je ne crois pas au sponsoring qui va venir des États-Unis. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que tout simplement, j'ai décidé de ne pas le faire. Tout simplement. Parce que je voulais montrer à l'église que la seule limite dans ta tête, la seule limite, c'est ce à quoi tu penses. Quand tu crois que Dieu peut, il va le faire. Et j'y ai cru. Je vous ai dit, on va aller à Touba. Aujourd'hui, on a déjà pratiquement bouclé tout le budget de la campagne de Touba. C'est près de 12 millions. Mais on les a déjà. Je n'en ai pas parlé à quelqu'un. Je ne suis pas parti faire des lettres. J'ai l'honneur, monsieur le chef de l'État. Vous savez, c'est pour le développement social de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des évangélistes. Venez nous aider parce que nous voulons aller évangéliser la Côte d'Ivoire. Non. Dans le passé, avant un moment, j'avais essayé de faire ça. Dieu a failli me frapper. J'ai eu des problèmes. J'ai été endetté. C'est tout ça qui a fait les crédits, là, frère. J'ai tiré la leçon. Mes amis, Dieu existe. La seule limitation que tu as, c'est la limitation de tes croyances. Et il y a des choses auxquelles tu crois qui t'empêchent d'essayer. Tu es là assis comme ça. Si tu n'as pas un parent placé, mon frère, tu ne peux pas avoir de marché. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Dieu te dit, toi, il va te prendre peut-être pour aller aux États-Unis. Si tu ne connais personne, si tu n'as pas payé, tu ne peux pas avoir le visa. Qui t'a dit que c'est vrai? La réalité, c'est que les géants étaient géants. Les Israéliens étaient petits. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce n'est pas ce qu'on voit qui est important. C'est ce en quoi on croit. Eux, les Israéliens, Ils étaient là, ils se voyaient sauterelles. C'est ce qui a énervé Dieu. S'ils disaient, les gars là, ils nous voient comme des sauterelles, mais ils ne savent pas qu'avec nous, il y a un grand Dieu. Dieu dit, Mais dit, nous sommes à nos yeux et aux leurs des sauterelles. Est-ce que tu ne te vois pas comme une sauterelle devant la méchanceté de la vie, devant les oppositions de la vie, quand tu vois les géants, quand tu vois combien de fois c'est difficile de réussir? Est-ce que tu n'as pas créé des géants dans ta tête? Les géants de la prospérité, impossible, impossible. Et tellement vous croyez ça, tu es tout le temps chez les gens, allez voir tes parents, coucou, on n'a qu'à t'aider. Dieu, là, Dieu, il ouvre les opportunités. Mais tu ne peux pas voir autre chose parce que tes croyances te bloquent. Tes croyances, il faut forcément rencontrer une personnalité en Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu n'as pas rencontré une personnalité, Dieu lui-même, il est limité. Dieu, il ne peut plus, il ne peut plus. D'où l'argent va sortir? Où il va faire? Il faut que toi, tu rencontres. Donc, il faut que tu aies rencontré le ministre. Et te voilà assis devant sa porte. Du matin au soir, le monsieur Sori, te parle mal. Oh, tu es un fils de Dieu. Toi aussi. Tu viens comme ça. Tu prends le nom de Dieu quand tu viens, puis tu as ta Bible, assis à son portail. Et mon tonton, il n'a qu'à me recevoir. Et puis tu vas aller mentir sur Dieu. Dieu me dit, tu dois me donner pour soutenir ma mission. Arrête ça. Arrête ça. Si Dieu t'a envoyé, il est capable de pourvoir. Dieu passera sûrement par des personnes. Dieu va passer par des gens, ça c'est certain. Mais ce n'est pas à toi de choisir par tes croyances. Est-ce qu'on est ensemble? Touche un voisin. Dis-lui, revisite tes croyances. Et soumets-les aux croyances de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une suite logique du deuxième point. Les Chinois, quand ils viennent ici, ils ont une autre croyance. Certains pays, ils vont se dire, la Côte d'Ivoire est en crise, ça ne réussit pas. C'est une croyance aussi. Et les Ivoiriens aussi, ils entendent ça ici, le pays est en crise. Personne ne peut réussir. Mais pendant que vous dites personne ne peut réussir, c'est là, c'est une sorte de grosse voiture. Mais comme tu ne crois pas que c'est possible de réussir, donc à tout prix, ils sont des voleurs. Je te dis, dans les groupes là, il y en a qui sont des voleurs, il y en a qui ne sont pas des voleurs. Il y a certaines personnes qui volent. Mais il y a un bon nombre de personnes qui ne volent pas. Mais comme tu ne peux pas croire, parce que si tu dois admettre qu'il y a des personnes qui ne volent pas, ça signifie que toi, tu es nul. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, tu es obligé de trouver des excuses dans une zone de confort, de paresse, en justifiant ta misère, tes échecs, par le fait que, oh, dès qu'on cite quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, oh, oh, on les connaît. On les connaît. Il dort à un tel. Oh, on te parle, on dit, tel homme de Dieu, tu vois, il travaille bien et Dieu veut le lever avec lui. Tu sais, je le connais. Hein? Toi, c'est maintenant que tu l'as vu. Moi, je le connais. Je le connais. Je l'ai rencontré la dernière fois là-bas. Et il a parlé avec le président. De toute façon, les gens, ils vont là-bas, ils racontent les trucs. On le connaît. On le connaît. Et toi aussi, tu avales. Donc, pour toi, si on n'a pas rencontré le président, on ne peut pas réussir en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs croient cela. Beaucoup de personnes croient ces choses. Mais Dieu qui juge, connaît les cœurs, il sait qui fait quoi. Moi, je sais que je vous parle selon la vérité de Dieu et selon la vérité de mon cœur. Si vous voulez croire aux méchants, croyez. Si vous voulez croire en la parole de Dieu, si tu crois en la parole de Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Mais si tu crois aux paroles des hommes et aux croyances des hommes qui vont te limiter, tu ne vas rien oser faire dans ta vie. Tu vas être là, aller prendre des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Aller passer 5 heures de temps, 10 heures de temps, à perdre du temps derrière une personne qui est censée t'aider, qui n'était pas prévue. Dieu ne voulait pas qu'elle t'aide. Mais tellement tu crois que ce n'est pas possible de financer ton projet en dehors de ce monsieur, tu es constamment devant sa maison, on te parle mal, on t'insulte, on te traite comme rien. Et tu es là parce que tu n'as pas d'autre croyance. Dieu est capable. C'est quand tu développes cette forme de croyance, quand tu revisites tes croyances, quand tu enlèves les limites, que tu commences à entendre la voix de Dieu qui te montre le chemin. Les agents qu'on a, ce n'est pas tombé du ciel. C'est passé par des personnes. Alléluia. Alléluia. Dieu les utilise. Mais c'est Dieu même qui les envoie. On devait faire une des campagnes. C'était, je crois, Korogo. J'ai prié pour que Dieu pourvoie. La campagne allait nous faire environ 10 millions. Mais là-dedans, si on voulait acheter un véhicule. Et j'ai prié, et Dieu m'a montré une méthode. J'ai réuni un groupe de personnes, et puis on devait faire un déjeuner où les partenaires allaient se désigner. Dieu m'a montré, il m'a dit, voilà, telle personne, organisez ça. Donc on a organisé la fête. Et puis, il y a une personne que Dieu avait mise là-dedans qui n'est pas chrétienne. Cette personne-là, pendant qu'on parlait, elle s'est levée et dit, elle aussi va faire son offrande. Au départ, moi-même, je ne voulais pas la mettre dans le groupe. Parce que je trouvais qu'elle n'est pas chrétienne. Mais Dieu m'a dit, il faut l'introduire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, la seule, est-ce qu'elle peut travailler avec nous? On va organiser, on va prêcher tout ça là. Elle prie un peu seulement. Elle est venue pendant qu'on finit de parler. Elle est venue, elle m'a dit, elle va amener son offrande. Son offrande là, c'était 10 millions. J'avais même plus besoin d'organiser la célébration des partenaires. J'ai dit, ah. Après, mon cœur a failli se séduire. Croyant que, sûrement que c'est la personne que Dieu a suscitée. Donc, à tout prix, il faut que. Maintenant, je l'encadre pour la gagner à Christ. Elle a fui, elle a disparu. Je n'ai pas pu la garder. Et puis, Dieu m'a dit, je passe par qui je veux. Arrête d'essayer de t'attacher aux gens. Alléluia. Je l'ai suscité un moment. Elle est venue. Elle est partie. Je vais susciter encore deux personnes. C'est mon œuvre. Laisse-moi faire. Donc, j'ai élargi ma foi. Ça peut venir de partout. Je ne suis plus attaché aux hommes. Alléluia. Et les hommes sont bénis de ce que Dieu passe par eux pour apporter quelque chose. Si Dieu vous utilise pour être un instrument de bénédiction, lui-même, il va vous rendre ça. Ce que j'entends de vous dire, frère, élargissez vos croyances. Dis à un voisin, révisite tes croyances. Et la prochaine fois, on va parler de créer autour de vous un environnement qui vous donne des challenges purs. Là, c'est l'environnement. Amen. Vous voyez par exemple, je ne vais pas le développer vraiment, mais en Jean chapitre 7, il dit après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Verset 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Et puis continue. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Amen. Vous voyez, la Bible dit que les frères de Jésus n'y croyaient pas en lui. Et Jésus n'est pas monté avec ses frères. Ils voulaient partir à la fête. Ils allaient dans la même direction. Mais parce qu'ils n'avaient pas la foi en lui. Regardez comment ils lui parlaient. Mais ce que tu fais là, ils avaient vu des miracles. Fais-le, tout le monde va croire en toi. Tu veux rester en cachette ici, sors. La Bible dit, il parlait comme cela parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Si vous regardez leurs propos, c'est comme des gens qui l'encourageaient. Mais c'était de manière ironique. Et on va voir aussi David. David, lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, son propre frère a dit, « Oh, toi tu es là, tu es prétentieux, la petite prétentieuse. » La Bible dit, David s'est détourné de lui. Et il est parti écouter quelqu'un d'autre. Pour avoir de l'audace, pour cultiver cela, il faut savoir vous mettre toujours dans l'environnement qui vous encourage et non dans l'environnement qui ne croit pas en vous. Il y a des personnes avec lesquelles vous voulez marcher. Quand vous mangez, vous avez l'impression que tout le temps, on te diminue. Voilà. Va dans l'environnement où tu es challengé. Alléluia. Tu peux être né dans un endroit. On ne croit pas en toi. On ne te challenge pas pour ton destin. Il ne faut pas rester attaché à un endroit, à un lieu où franchement, tu n'es pas en train d'avancer vers ton destin. Franchement. Sous prétexte que mes parents sont nés là-bas, Jésus est né ici, on a grandi ici. Frère, honore tes parents, honore ta source. Mais ne reste pas forcément là. Jésus a dit, mes frères, ma mère, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. Amen. C'est très profond. Je vais développer ça. Votre entourage. Vous devez savoir à un moment donné, quand vous sentez que vous devez agir dans la vie, tournez-vous, mettez-vous dans un territoire. Et Dieu va vous le présenter. Or, quand il va vous le présenter, il y a quitté ceux avec qui quelquefois vous êtes nés. Ceux avec qui vous avez toujours
fait ses frères dans l'histoire de David et de Jésus, des frères. Dans l'histoire de Joseph, ses frères n'ont pas cru en son rêve. Et il y a plusieurs histoires comme ça, mais toutes ces personnes ont dû quitter. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie. La famille, souvent, les origines, là où on vient, ce sont des zones de confort, où on se sent à l'aise avec les personnes qu'on connaît depuis qu'on est enfant. Mais franchement, tu ne te sens pas propulsé vers ton futur. Il y a des fois, il faut savoir faire un choix. Leur dire, allez-y, moi je viens après. Ça va vous détourner. Ça peut être aussi des amis qui sont pour vous comme des frères. Mais quand vous marchez là, franchement, c'est pour causer avec toi de futilité et de choses inutiles dans la vie. Hé ma chère, on va parler, vous parlez seulement, tu sais, oh. 4 heures de temps. Oh, pendant 4 heures de temps là, tu aurais pu prendre le message que tu as entendu aujourd'hui, les autres fois, réécouter et puis être challengé. Mais tu as raconté les histoires qui ne te font pas avancer. Viens, moi, te parler. Moi, te parler. Parable du village. Parable du village. On dit, le village vient. Viens, on va régler. Parable. Oui. Faut circonscrire les palabres du village. Faut les circonscrire en 10 minutes. Je dis, parlons, allons droit au but. Bon, si bien sûr, c'est ta destinée d'aider. Mais je veux dire, il y a des causeries, il y a des entretiens, franchement, qui te font perdre beaucoup de temps par rapport à la manifestation de ton destin. L'audace divine se manifeste dans un environnement adéquat. Quel que soit le mangué qui est dans le noyau de la mangue, même s'il est censé produire, ce noyau-là de mangue va produire les meilleures mangues. Si tu ne le mets pas dans un sol, que tu le mets sur le ciment, aucune mangue ne sortira. L'environnement est très déterminant dans la manifestation de votre fruit. Et c'est vous qui devrez le choisir. Vous devez décider à un moment donné, franchement, je ne suis pas propulsé vers ma destinée dans un endroit. Je vais là où je vais bouger. Parce que j'ai un enfant que je dois enfanter. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez? Vous n'avez pas vu Marie? Marie. Vous avez vu Marie, non? Joseph, André ne croyait pas trop. Quand Marie est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle est quittée de là, elle est partie voir Elisabeth, sa cousine, qui était enceinte. Marchez avec des gens qui sont enceintes comme vous. Alléluia. Marchez avec des personnes qui sont enceintes d'une vision comme vous. Si tu marches avec des gens qui ne sont pas enceintes, ils ne vont pas te comprendre. Quand tu vas cracher, ils vont se plaindre. Mais les personnes enceintes, quand ils crachent, elles savent que bientôt, quelqu'un naît. Quand vous portez un enfant, quand vous portez une vision, allez chercher des personnes enceintes comme vous. Ne marchez pas avec ceux qui... Marie était son mari, Joseph. Elle est partie rester chez Elisabeth pendant plus de 6 mois. Chez sa cousine. Il y a longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais elle a senti dans son cœur. Et quand elle est arrivée là-bas, les deux bébés se sont galvanisés. Et Elisabeth dit, quand je t'ai vu, mon bébé a frémi. Parce que Jean-Baptiste avait 6 mois de plus que Jésus. Il a frémi dans mon ventre. Vraiment, tu es heureuse. Elle s'encourage par des paroles. C'est très important, votre environnement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from here.